Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages aujourd'hui est consacré à un petit ouvrage, petit par la taille mais fort intéressant, Gardien de mes frères, Jacob Kaplan. C'est un ouvrage qui évidemment évoque la figure de Jacob Kaplan, grand rabbin de France, et que l'on doit au rabbin Haïm Korsia. Haïm Korsia qui est ici dans le studio avec moi, bonjour.
Bonjour.
Haïm Korsia, je rappelle que vous êtes aumônier, général israélite de l'armée de l'air et secrétaire général de l'association du rabbinat français, que vous avez longuement travaillé avec le grand rabbin Jacob Kaplan et que vous lui avez même consacré votre thèse de doctorat en histoire contemporaine, si je ne me trompe pas. Quand on parle du grand rabbin Kaplan, vous dites dans votre introduction que l'on évoque une figure du judaïsme de France pendant 100 ans. Il faut dire qu'il a vécu 100 ans.
Oui.
Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire avec ce petit livre ?
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur lui, à travailler sur ses textes, ses écrits, sa pensée, son action. Donc à un moment, vous vous accaparez quasiment le personnage. Je l'ai connu quand j'étais jeune élève à l'école rabbinique, je l'ai connu quand je suis sorti du séminaire, et c'était pour nous la référence. La référence parce qu'il avait su justement être un homme de synthèse entre le judaïsme et la France, entre les orthodoxes et les libéraux, entre toutes les tendances d'une communauté qui est très virevoltante. Et il avait porté, une forme d'amour de tous. Il l'a fait pendant 100 ans, parce qu'il a vécu 100 ans. Et à travers donc sa vie et son action, on peut mesurer les évolutions du judaïsme français et de manière plus large d'ailleurs les évolutions de la France. Il est né en 1895, c'est-à-dire la date de l'affaire Dreyfus. Il est mort en 1994, c'est-à-dire un an de la reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican. Et c'était l'homme, je crois, du passage entre ces deux pôles. Ces deux pôles sont assez symptomatiques. La reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican, pour lui, c'est la reconnaissance de la vocation d'Israël. Israël n'est plus le juif errant, condamné à errer. Il est une part de la révélation divine, une part reconnue et acceptée par l'Église, notamment Vatican II. Et le grand Kaplan a beaucoup œuvré. D'abord en participant à la conférence de Selisberg en 1947 pour définir 10 points d'accord entre le judaïsme et le christianisme. Il a beaucoup œuvré dans les amitiés judéo-chrétiennes en France. Et je crois que pour lui, c'était une sorte de convergence de son espérance. Voilà. L'espérance du moment où les frères, entre le judaïsme et le christianisme, se retrouveraient. Il a connu ça.
Dans votre ouvrage, il y a une première chose qui surprend, c'est la couverture. Donc il y a le titre « Gardien de mes frères, Jacob Kaplan » et on y voit un officier de l'armée française qu'on pourrait dater de la guerre de 14, par exemple.
Ouais, c'est pas un officier, il est à cette époque sergent fourreur.
Il est sergent ?
Il est sergent à cette époque. Il a fait la guerre de 14 dans les tranchées. Il est mobilisé en 14, il a 19 ans. Et comme il avait fait un an d'école rabbinique, en septembre 1915, le grand rabbin de France de l'époque lui écrit une lettre qu'on a, et qui a été exposée au musée d'art et d'histoire du judaïsme très récemment, où il lui dit « Nous avons besoin d'un aumônier sur un bateau-hôpital dans les Dardanelles. »
Donc il était aumônier dans les Dardanelles.
Il a refusé. Parce qu'il a expliqué plus tard, être aumônier dans les Dardanelles, ça voulait dire avoir 3 galons, être capitaine, les aumôniers étaient assimilés au grade de capitaine. Et j'estimais qu'à 19 ans ou 20 ans, je ne pouvais pas être capitaine, alors que moi, j'étais avec mes copains bretons et nordistes, et eux creusaient les tranchées. Je me suis dit-il, en quittant ces hommes, je vais leur donner le sentiment que je me fais planquer à cause de ma religion. Or, je veux participer à l'effort qu'ils font tous. Et il participe, il est dans les tranchées. Son obsession était de ne pas être un planqué. Il n'est pas officier, il est sous-officier, brillant sous-officier, s'occupe des communications. Et il est blessé 2 fois, une fois grièvement. Il passe plusieurs semaines à l'hôpital. Et il a décoré de la Croix de Guerre, chevalier de la Légion d'honneur en 40 à titre militaire. Donc c'est un homme vraiment de devoir et un combattant. C'est-à-dire qu'il veut être combattant. Et cette photo était un clin d'œil à cette forme éminente de service des autres qui consiste à risquer sa vie pour les autres.
Alors, dans votre ouvrage, Haïm Korsia, consacré au grand rabbin Jacob Kaplan, évidemment, vous passez en revue son enfance, son combat dans la Grande Guerre, ses premières responsabilités. Il est rabbin à Paris et puis, évidemment, il se trouve confronté, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, à l'expulsion des Juifs de France. Un mot sur cette période.
C'est un peu compliqué pour lui parce que Il est ancien combattant de la guerre de 14. Il participe vraiment de manière imminente à toutes les cérémonies, par exemple, des croix de feu. Il accueille les croix de feu à la synagogue de la Victoire jusqu'en 36. Quatre jours avant leur dissolution, il les accueille à la Victoire pour la cérémonie d'hommage aux morts juifs pour la France. Il est très sensible à ça parce qu'il est ancien combattant et il vénère l'idée que Barrès avait développée dans les familles, diverses familles religieuses en France. C'est l'union sacrée de toutes les religions autour d'un objectif de la patrie et de la nation. Et puis, arrive la guerre. En 39, il est nommé auxiliaire du Grand Bain de France et il est engagé comme aumônier. Donc il est aumônier militaire de la première armée. Il va dans l'Est et il a aussi ce comportement héros. Il réquisitionne un train, il ramène des malades à un hôpital. Enfin, il a vraiment une action de dévouement. Et encore une fois, il ne se fait pas planquer. Et puis, il revient à Vichy où il est tellement actif, disons qu'il se fait expulser de Vichy. Il habite à Cussé à côté, il se fait expulser de Vichy. Donc il rejoint le grand Ramin de France qui s'était réfugié à Lyon. Et là, il a aussi une guerre magnifique. Il est arrêté en août, tout à la fin de la guerre, par la milice. Et par miracle, il est libéré. Il discute avec eux. Il leur parle de Bible. Il leur sort ses livres de prière, leur montre les livres de prière. Il discute avec eux. Il lui dit, écoutez, ramenez-nous une rançon, on vous lâche. Il leur dit d'accord. Et il est tellement honnête qu'il leur ramène la rançon. C'est incroyable. Alors qu'à cette époque, les cadavres jonchaient la Saône et le Rhône, les cadavres des gens à qui on exigeait des rançons et qu'on éliminait pour ne pas laisser de traces. Il leur ramène la rançon. Quelques temps après, ces miliciens, malheureusement très connus, sont arrêtés. Et ils disent, mais non, on a fait du bien, on a sauvé un rabbin, il s'appelait Kaplan. Et lui, on lui demande, est-ce que ces gens vous ont arrêté? Il veut pas dénoncer. C'est peut-être des méchants, mais il veut pas les dénoncer, il dit non. Alors les gens lui disent, mais enfin, monsieur le rabbin, vous ne le reconnaissez pas, c'est nous. Il est obligé de reconnaître, et ces gens ont été fusillés pour autre chose. Mais c'est vous dire la droiture de cet homme, qui traverse ce siècle, et traverse ces temps sombres, ces temps terrifiants, oui. Avec sa rigueur, sa dignité, et notamment sa dignité lorsque, comme tous les juifs de la zone occupée, il doit se faire inscrire à la mairie de sa ville en tant que juif, il va à la mairie de Cussé, en Allier, et il écrit une lettre, il se fait inscrire lui sa famille, il se fait enregistrer, et il écrit une lettre à Xavier Vallat, le commissaire aux affaires juives oui. De l'époque, où il lui dit « je comprends pas, on me demande de m'inscrire comme juif, pour moi c'est une fierté, je le fais, mais je comprends bien que c'est pas pour des bonnes choses, vous me le demandez ». Ceci dit, il conclut sa lettre par quelque chose d'extraordinaire, où il dit « lorsque la justice reprendra ses droits en terre de France et ne pourrait en être autrement dans le pays de Bergson et de Voltaire, l'antisémitisme, lui, perdra les siens ». Il faut avoir du courage pour écrire ça.
Oui, absolument. Vallat. Donc c'est un homme de courage, vous le dites, c'est un homme juste, au sens biblique évidemment. Vous insistez aussi beaucoup dans votre livre, Haïm Korsia, sur le côté dialogue de cet homme. Oui. C'est-à-dire c'est véritablement un rabbin qui a initié le dialogue, enfin ou en tout cas qui s'est impliqué dans le dialogue judéo-chrétien pour que faire avancer l'amitié, faire avancer oui. Les relations, faire avancer les choses.
Parce que c'était vraiment un objectif profond pour lui. Il avait vécu ça dans les tranchées, avec les Bretons, les Nordistes. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Bretons qui étaient juifs. Il a donc vu des gens, il les a côtoyés et il a senti la même fraternité. Ils étaient ensemble. Et lui, il a essayé de faire ça toute sa vie. Il l'a fait d'autant plus qu'il avait raison. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'affaire Finalis et ses deux enfants juifs, qui ont été confiés à une nourrice pendant la guerre par leurs parents. Leurs parents sont déportés, ont disparu pendant la Shoah. Après la guerre, la tante des enfants réclament les enfants pour les reprendre, et leur nourrice les baptise, les exfiltre avec l'aide des sœurs de Notre-Dame de Sion et toute l'église de l'époque qui se retrouve dans la même situation que l'affaire Mortara qui en 1859 avait déjà fait problème puisqu'un jeune juif avait été baptisé par sa nourrice et le pape n'avait pas rendu le petit. Le pape avait interdit qu'on rende le petit. Donc on se retrouve dans cette situation où un acte d'iniquité est posé sur un enfant qui est exfiltré vers l'Espagne, le grand Macaplan pourrait se jeter sur ceux qui ont commis l'iniquité, il ne fait pas ça. Il leur trouve une porte de sortie honorable. Mieux que ça, il discute avec les sœurs de Notre-Dame de Sion. Et à la fin de cette histoire où les enfants sont rendus à la famille, finalement grâce à son intervention, et uniquement grâce à son intervention, les sœurs de Notre-Dame de Sion décident d'orienter leur travail vers le judaïsme, non plus vers la conversion des juifs, mais vers la connaissance du judaïsme. Et c'est les sœurs de Notre-Dame de Sion qui ont fait un travail extraordinaire de préparation des textes de Vatican II. Donc on peut dire d'une certaine manière...
Qu'il les a convertis au sens propre du mot.
Il les a convertis au respect de l'autre.
C'est-à-dire un retournement.
Exactement. Et il l'a fait uniquement parce qu'il est respecté. Il a fait un dialogue intelligent qui ne consiste pas à écraser, à avoir raison, mais qui consiste à avancer ensemble.
Alors le grand rabbin Kaplan, et bien sûr, on l'a dit, et parce que Canal Academy a consacré plusieurs émissions à cette haute figure de France et cette haute figure du judaïsme en France, il est entré à l'Institut de France, élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Il va y rester de nombreuses années.
Oui, de 67 à 94.
67 à 94.
Les anciens académiciens se souviennent de lui et m'ont révélé sous le secret de la confession quasiment, son petit surnom, il l'appelait entre eux Bon Papa.
Bon Papa, ah, bon je papa, ne savais pas ce détail.
Parce qu'il avait toujours ce regard de bonté et cette sorte de sérénité qui diffusait autour de lui d'une sorte d'aura extraordinaire. Et ils me l'ont dit tous avec une sorte d'émotion, en retrouvant presque sa présence simplement en disant son nom. Et la Bible dit, les justes sont ceux dont la bénédiction vient quand on prononce leur nom.
Après cet entretien avec le rabbin Haïm Korsia, auteur du livre « Gardien de mes frères » Jacob Kaplan, je vous propose d'écouter la préface donnée par M. le bâtonnier André Damien, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques et président pour l'année 2006 de cette académie. Je vous propose d'en écouter la préface. La lecture est faite par Fernand Guillot.
Peu de livres sont à même, comme celui que nous tenons entre nos mains, de nous faire traverser le siècle passé sur les pas d'une personnalité aussi exceptionnelle. Né en 1895, combattant de la Grande Guerre, élu grand rabbin de France, il y a tout juste un demi-siècle, en 1955, le grand rabbin Jacob Kaplan est mort presque centenaire, en 1994, après avoir connu toutes les épreuves et toutes les espérances d'un XXe siècle contradictoire. S'il est un lieu où sa mémoire n'est pas près de s'effacer, c'est bien l'Institut de France. Comme chacun sait, l'immortalité n'y est pas un vain mot, non qu'elle puisse nous prémunir contre la disparition de nos corps mortels, mais parce que les académiciens, conscients d'être avant tout des successeurs, sont les gardiens zélés du souvenir de leur grand devancier. Évoquer le grand rabbin Kaplan est l'un de ses devoirs que l'on accomplit avec bonheur et fidélité. Je l'ai rencontré pour la première fois le 17 mai 1971, lors de la communication qu'il fit devant l'Académie des sciences morales et politiques avec le révérend père Michel Riquet sur le thème « Juifs et chrétiens après Vatican II ». Le grand rabbin Kaplan était membre de l'Académie depuis 1967, année de son élection au fauteuil de Georges Duhamel dans la section morale et sociologie. J'ai été aussitôt frappé par l'ouverture d'esprit qu'il manifestait dans le respect des principes dont il était le gardien. Dans cette communication devant l'Académie, il insistait sur le patrimoine spirituel commun des Juifs et des chrétiens et sur l'unité des forces spirituelles issus d'Abraham et de Moïse. Le Pater Noster, disait-il, est d'inspiration biblique et rabbinique, d'abord par l'emploi de la forme du pluriel « Notre Père, donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos péchés ». C'est la manière habituelle de la prière juive, qui en général n'est pas une prière universelle, mais une prière collective, même pour la confession des péchés. Mais voici plus remarquable, ajoutait-il, tout le magnifique début de la prière, « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite », est presque textuellement ce que nous disons dans nos anciennes prières, et particulièrement dans le Kaddish. Et il rappelait l'ouverture d'esprit du judaïsme tel qu'il le comprenait. Ces paroles proclamées solennellement dans l'enceinte de l'Institut de France manifeste à la fois l'attachement profond à sa foi et à sa tradition, mais en même temps son libéralisme et son ouverture à toutes les valeurs religieuses. « Lorsque je parle de rapprochement, précisait-il, il ne s'agit pas d'une fusion des religions, il s'agit, chacun gardant sa religion particulière, de travailler ensemble. Il faut que les religions s'entendent et sympathisent. Nous pouvons très facilement, nous, juifs, sympathiser parce qu'aux yeux du judaïsme, la religion chrétienne, comme la religion musulmane, ont une raison d'être, elles ont une mission divine. Il ne s'agit pas de fusion, de syncrétisme, nous pouvons travailler en restant chacun fidèle à sa religion. » J'ai eu l'occasion d'étudier parallèlement avec lui une affaire célèbre et douloureuse à laquelle il apporta sa hauteur de vue, son respect de ses principes et sa volonté de conciliation. Je veux parler de l'affaire Finali. Le rôle du grand rabbin Kaplan a été fondamental dans cette affaire. Au lendemain de la guerre, la communauté juive qui avait perdu par la lourde persécution dont elle avait été la victime le quart de ses membres ne formait pas un ensemble homogène. Divisée sur le plan politique et socio-économique, éclaté en groupes régionaux encore peu sensibles à l'attachement pour Israël, elle aspirait à prendre toute sa place dans la société française et à se relever du malheur qui l'avait frappée. C'est le grand rabbin Kaplan qui, joignant à une inébranlable fermeté une volonté de conciliation et de dialogue tout aussi remarquable, a réussi à apporter une solution à cette douloureuse affaire et en même temps à rassembler autour de sa personne et de sa doctrine la communauté juive française tout entière. On aurait pu penser que tout dialogue fraternel entre juifs et catholiques était compromis. Il fut d'un avis contraire, et son action efficace a permis de faire comprendre à tous, et particulièrement aux catholiques, qu'une certaine communauté de destin les reliait au judaïsme. Comme il l'a écrit, « L'enseignement de l'estime a pris le pas sur l'enseignement du mépris. Il sut tempérer les ardeurs des uns et des autres » pour laisser une porte ouverte à une réconciliation. L'histoire lui a donné raison. Tel est le grand homme, le grand croyant, dont l'action forçait le respect, que j'ai connu grâce à l'Institut de France et que j'ai eu le bonheur de rencontrer encore une fois, fatigué de corps, mais toujours aussi lucide et ardent d'esprit, quelques jours avant sa mort, lors de l'inauguration du consistoire central. Il faut savoir gré au rabbin Haïm Korsia d'avoir consacré de longues études à la vie et à l'œuvre du grand rabbin Kaplan, mais aussi de concilier, comme son illustre prédécesseur, le service du judaïsme et le service de la France, et surtout d'avoir eu l'heureuse idée, 10 ans après sa mort, de le faire connaître dans un vaste public grâce à cet ouvrage. Un autre siècle s'est ouvert, une nouvelle génération arrive aux responsabilités, mais l'héritage se transmet. Et nul ne s'en plaindra.
Vous venez d'entendre la lecture de la préface que M. André Damien a donnée à l'ouvrage « Gardien de mes frères, Jacob Kaplan », un petit ouvrage que nous devons au rabbin Haïm Korsia. Haïm Korsia, vous avez donc rédigé cet ouvrage « Gardien de mes frères, Jacob Kaplan ». Je précise que cet ouvrage aussi présente l'avantage d'avoir de très nombreuses illustrations qui permettent aussi de se faire une idée du rabbin Kaplan, pas seulement quand il était âgé avec une grande barbe, mais aussi jeune homme, jeune marié, parce qu'il avait une grande famille, et puis de voir tout cela, toutes ces illustrations sont très touchantes. Et cet ouvrage, si on veut découvrir le rabbin Kaplan, est véritablement indispensable. Je rappelle que vous l'avez publié aux éditions Pro Arte. Et j'en donne l'adresse, 103 avenue Georges Gossena, 94 200 à Ivry. C'est un petit ouvrage qu'on peut se procurer facilement. Et j'espère qu'il aura un grand succès. En tout cas, Haïm Korsia, merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy.
Merci.
Et à très bientôt.
Au revoir. Thank you.